Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du Pédalo ce soir, la 10e édition d'Arancé se déroule le 21 juin prochain. Il vous sera possible de visiter les jardins publics et privés de la ville pour découvrir l'art sous toutes ses formes. C'est également le jour de la fête de la musique, il y aura aussi des chanteurs et des musiciens qui performent dans certains de ces jardins. Pour en savoir plus, on reçoit Delphine Lecomte, organisatrice de l'Arancé Jardin, ainsi que Quinx, DJ, qui mixera lors de l'événement. En deuxième partie d'émission, on vous propose un entretien avec Maximilien Schenderhorsen et Frédéric Frénard de Réseauville, le centre de ressources politiques de la ville en Bretagne et Pays de la Loire. Ils ont créé l'outil Adapt Canicule. Cette interview est dans le cadre de la série de reportages documentaires produite par la Frappe et la Corlab. Déjà demain, les territoires face au changement climatique. En fin d'émission, on écoute un débat entre les élèves de 5e du collège Saint-Jean-de-la-Barre sur l'importance du sport pour combattre les discriminations. Voilà, vous savez tout sur ce pédalo du mercredi 10 juin, alors ajustez vos gilets de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Le 21 juin prochain, l'art et la musique s'invitent dans les jardins publics et privés de la ville des Ponts-de-Cé. Les artistes vous feront découvrir leurs œuvres sous forme d'exposition ou de spectacle. Il sera possible de visiter tous ces jardins de 10h à 18h. Pour en savoir plus sur cette journée, nous recevons Delphine Lecomte, l'organisatrice de cette journée, et Quinx, DJ qui mixe à l'événement au Jardin de la Gare. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Delphine, c'est assez unique d'exposer des œuvres d'art dans des jardins, surtout certains privés. Comment les gens réagissent quand ils découvrent des œuvres dans des endroits qu'ils n'avaient jamais vus auparavant ?
C'est tout l'intérêt de cet événement, qui est donc la 10e édition. Donc maintenant, c'est un petit peu rodé. Même les spectateurs savent à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que c'est l'intérêt de voir une œuvre, de découvrir une œuvre dans un bel environnement, puisque les jardins, évidemment, sont choisis au préalable, et ou de redécouvrir une œuvre dans un autre environnement, ou d'entendre des artistes dans un autre environnement qu'habituel. C'est ça la surprise, et c'est ça ce qui est super.
Quinx, toi, tu es DJ, tu es aussi bénévole à Radio Campus. Ton style, on peut le qualifier d'électrique. Qu'est-ce qui t'a fait accepter de mixer à un événement comme ça ?
Je suis aussi adhérent au Jardin de la Gare. Mmh. Du coup, j'ai eu l'opportunité de mixer. Je vais faire un DJ set Electro World un peu. Voilà.
Trop bien. Toi, du coup, Delphine, qu'est-ce qui t'a fait décider de mettre Quinx dans la programmation ? Comment ça s'est fait un peu tout ça ?
Eh bien, tous les ans, on a un comité de pilotage qui recherche des jardins, donc à la fois des jardins privés. Donc cette année, on a 9 jardins privés. Donc là, pour ça, on fait un appel dans le bulletin municipal. Mais il y a aussi des jardins partagés. Donc qu'est-ce que c'est qu'un jardin partagé ? C'est un jardin où on a une grande parcelle, c'est un jardin associatif dans lequel tout le monde jardine sur la même parcelle et se partage après les légumes. Et DJ Quinx fait partie des personnes du jardin. Donc quand le jardin s'est sollicité pour visiter, on a dit est-ce que vous aussi vous avez des artistes à nous proposer, et ça a été le cas. Donc ça a fonctionné, parce que l'événement se veut aussi très ouvert. Donc on a à la fois dans certains jardins du chant lyrique, et on a de l'électro avec DJ Quinx dans d'autres. Mais comme on a aussi des spectacles de théâtre, des spectacles de magie, c'est vraiment très très varié. C'est aussi ce qui fait le charme de cet événement.
Alors vous mettez tous les deux en avant des formes d'art différents. Pour vous, toutes les formes d'art se valent et chacune apporte une vision différente, ce qui permet de toucher un maximum de monde.
Tout à fait, c'est ça. Hein, c'est aussi un événement familial. On y vient à pied, en vélo, possiblement en voiture, et on y vient en famille. Donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts, et c'est ce qui fait l'intérêt.
Oui. Est-ce que c'est compliqué de trouver des particuliers qui se prêtent au jeu, qui autorisent les expositions dans leur jardin, et qu'est-ce qui les motive ?
Alors, c'est pas compliqué parce que tous les ans, on a à peu près le même nombre. C'est pas toujours les mêmes parce qu'il y en a qui le font deux ans, qui arrêtent, etc. C'est toujours les mêmes quartiers sur les ponts de C. C'est sûr qu'il faut que ce soit validé parce qu'il y a quand même des critères à remplir. Il faut qu'on puisse rentrer dans le jardin sans passer par la maison pour des questions de respect de l'intimité, tout simplement. Non, ça se trouve assez facilement. Je pense que les gens ont envie d'accueillir des artistes, souvent en connaissent eux-mêmes, nous en proposent, et puis nous on en recherche par ailleurs. Non, ça se passe bien. Je pense que c'est d'abord un moment aussi de partage, hein, parce qu'on a aussi un moment, le repas, le midi, d'échange entre les propriétaires des jardins, les exposants, les artistes, puisqu'il y a ceux qui exposent à la journée, et puis il y a ceux qui viennent juste pour faire un chant ou pour faire une danse, voilà.
C'est les beaux jours qui commencent en même temps. Mettre des œuvres d'art, jouer de la musique dans les jardins, c'est une manière de montrer aux gens qu'il faut sortir, qu'il faut prendre l'air, qu'il faut découvrir de nouvelles choses.
Oui. Ouais, c'est la culture, hein, c'est la culture, c'est les cultures. Ça permet d'aller vers le public et que ce soit pas uniquement le public qui aille dans une salle. C'est une culture gratuite dans cette journée-là. Alors je tiens à remercier aussi les artistes parce que ce jour-là, la plupart des artistes qui se proposent sont bénévoles. Donc, comme les propriétaires d'ailleurs et comme les artistes exposants. Donc, ça permet aussi d'ouvrir plus largement et de faire connaître aussi peut-être des artistes débutants, mais pas que, puisqu'on a des artistes assez renommés. Enfin, pour pas la citer, Catherine Roumanoff, qui est une grande artiste peintre qui fait des portraits textiles. Donc, on est très heureux de ça.
Le fait que cet événement soit le même jour que la fête de la musique, c'est un petit bonus, parce qu'on peut ajouter une forme d'art au projet. Est-ce que c'était voulu dès le début de choisir cette date ?
Alors non, c'est toujours l'avant-dernier dimanche de juin, donc là, ça tombe bien, le dimanche était le 21 juin, donc c'est pour ça, cette année, c'est particulier, c'est un Arancé Jardin musique, hein, donc dans tous les jardins presque, sauf un qui est trop petit, il y a des intervenants musicaux ce jour-là, ce qui n'a pas été le cas les autres sessions. Voilà, on avait moins de musique.
Même l'exposition de Philately au jardin est consacrée à la musique.
Alors, on continue de parler de l'événement Arancé qui aura lieu le 21 juin prochain avec Delphine Lecomte, organisatrice de cette journée, et Quinx, le DJ qui mixera à cet événement, mais avant, on fait une pause musicale. On écoute Handel Whisker de Reed Josser en feat avec Sam Wilkes et Tamis Parzile, sorti en 2026 dans son album California Spacecraft. Un mélange de jazz, de pop japonaise assaisonné d'une touche électrique. A tout de suite dans le pédalo. C'était Handle Whisker de Ridgeossers en feat avec Sam Wilkes et Tamis Parzilet. On vit toujours sur Radio Campus Angers à l'écoute du pédalo et aujourd'hui on parle de l'événement Arancé du dimanche 21 juin. On est toujours en compagnie de Delphine Lecomte, organisatrice de l'événement, et de Quinx, DJ qui mixe à l'événement au Jardin de la Guerre. Alors cet événement, ça fait plusieurs années que tu l'organises avec la ville des Ponts-et-Cé. Delphine, est-ce que tu es toujours surprise et admirative des œuvres présentées ?
Ah, toujours, effectivement. Alors, je veux juste préciser quelque chose. Je ne suis pas l'unique organisatrice, hein, parce que c'est en fait initié au début, hein, il y a 10 ans. C'est le comité de quartier qui a organisé ça. Et puis ensuite, la municipalité, effectivement, est venue en soutien. Moi, je suis conseillère déléguée à la citoyenneté. Mais c'est vraiment tout un comité de pilotage qui organise ensemble. Je tenais à le préciser quand même. Et effectivement, tous les ans, il y a des très bonnes surprises d'artistes différents, avec des œuvres vraiment, des sculptures, du tournage sur bois. Alors, la particularité cette année, c'est qu'on aura en plus 2 endroits où on pourra boire des verres, parce qu'on mise sur le beau temps quand même. Hein, on a l'association des bateliers, hein, qui aura une buvette, et puis on a le bistrot associatif Latin Bal, hein, qui proposera aussi une petite buvette, donc ça permettra de rajouter encore de la convivialité à cet événement.
Alors Quinx, toi, c'est la première fois que tu as mixé à cet événement. Comment ça va être de mixer dans un jardin entouré d'œuvres d'art ?
Je suis impatient. j'ai jamais fait dans un jardin, mais je connais bien le jardin parce que on l'a préparé, il est nickel là pour l'arranger jardin. Et c'est assez marrant de pouvoir mixer un endroit où je vais quand même régulièrement pour plutôt récolter les légumes et faire planter. Enfin voilà.
Alors ce sera la 10e édition de l'arranger jardin. Est-ce qu'il y a des surprises qui seront présentes pour cette première dizaine ?
Alors, des surprises, il y en a toujours, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre quand on rentre dans un jardin. Je vous ai parlé effectivement des buvettes. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes. Il y aura de la sculpture, de la vannerie, de la mosaïque, du bois, de la peinture, et j'en passe. Et puis, je pense que la surprise, elle sera surtout avec les artistes musicaux. Parce que ça... forcément, c'est du direct et puis ça, c'est toujours un enchantement.
Alors, Quinx, pour l'événement, tu as préparé un set spécial, je pense. À quoi ça va ressembler ?
Moi, ça va être sur une base électronique, électro-world, on va dire, plutôt avec des sons arabisants, musique africaine, cumbia, enfin un peu partout, avec de l'électro, voilà.
Alors, comme on le disait tout à l'heure, tu mixeras dans un jardin. C'est quoi les musiques qui marcheront bien dans ce décor ?
On va commencer tranquille dans l'après-midi, puis on verra en fonction des gens si on peut aller un peu plus fort.
Ton set, il va durer de quelle heure à peu près ?
Ouais, je vais faire je fais plusieurs bouts de set en fait. Il y a des spectacles de magie, concerts. Enfin voilà, plein de d'animations. Donc on se partage le temps comme ça.
Alors sur place, il y aura un grand nombre d'artistes comme Linda Levitz qui fait de la gravure et de la peinture, ou Françoise Gargam qui fait de la tesselle mosaïque. Vous conseillez aux gens qui osent pas forcément de vraiment aller discuter avec les auteurs de ces œuvres pour comprendre les démarches artistiques derrière?
Tout à fait, je vous l'ai dit, hein, c'est un moment aussi d'échange et de partage. Donc c'est l'intérêt dans le contrat moral auquel s'engagent les artistes, c'est d'être présent toute la journée. Hein, présent toute la journée, ça veut dire être là à l'écoute du public qui vient à leur rencontre. Et donc, au contraire, faut aller leur parler, questionner, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont choisi de passer comme message avec leur œuvre d'art ou avec leur morceau choisi.
Il y a plein de styles artistiques différents, des exposants, c'est la même chose pour les musiciens. Il y en aura un peu pour tous les goûts, on peut dire.
Ah oui, oui, oui. Vous avez vu, donc DJ Quang, c'est forcément l'Electro World, mais sur le même jardin, à un moment différent, évidemment, on aura du concert-lecture avec des sonatines de James Howell. Dans d'autres jardins, on aura un ensemble vocal lyrique avec Fiori Musicali. On a aussi du chant et, ou de la chorale avec Chanteloire, du chant lyrique avec Musartiste. On aura de la guitare. Enfin, vraiment, il y en aura, je pense, vraiment pour tous les goûts.
Ça fait un beau programme. Comment on arrive à mettre tout ça en œuvre dans un espace aussi, entre guillemets, restreint, on peut dire?
Ah ben ça, c'est parce qu'on travaille avec des bons agents à la municipalité qui savent jongler avec les plannings. Enfin, je remercie particulièrement Marie de la Maison des Associations et de la Citoyenneté qui a travaillé sur ce planning pour justement coordonner tout ça et mettre ça en musique.
Merci beaucoup Delphine Lecomte, organisatrice de l'événement Arancé Jardin, et merci aussi beaucoup Quinx, DJ qui mixera au Jardin de la Guerre à l'occasion de cet événement, d'avoir été nos invités ce soir. L'Arancé, c'est le dimanche 21 juin, de 10h à 18h au Poncé. N'hésitez pas à aller faire un tour pour découvrir de nombreuses œuvres artistiques et écouter de la bonne musique. Bonne soirée.
Merci.
Merci beaucoup.
Le pédalo, ça continue, et pour cette deuxième partie d'émission, on vous propose une interview dans le cadre de la série « Déjà demain, les territoires face au changement climatique » de la FRAB et de la Corlab. Tout le monde subit la chaleur, mais certains y sont bien plus exposés que d'autres. Chaque année, en Europe, les épisodes de fortes températures provoquent plus de 175 000 décès, selon l'Organisation mondiale de la santé, un chiffre en constante augmentation avec le réchauffement climatique. C'est justement ce qu'ont voulu mieux comprendre Frédéric Frénard et Maximilien Steindorsson avec leur outil Adapt Canicule. Ils cherchent à identifier plus précisément les populations les plus vulnérables, celles qui paient le prix fort lors de ces épisodes extrêmes. Un projet avec un objectif clair, mieux ciblé pour mieux protéger. Mathieu Bois s'est entretenu avec les deux hommes.
Onde durable. Déjà demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages à la rencontre de celles et ceux qui transforment nos façons d'habiter, de vivre et de faire territoire.
Maximilien Steindorsson, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Fénard, bonjour.
Bonjour.
Première question, qu'est-ce qu'Adapt Canicule ?
Adapt Canicule, c'est une solution numérique qu'on a imaginée à partir du souhait en fait de travailler sur une meilleure connaissance des réalités des quartiers populaires face aux canicules. Donc c'est un travail au démarrage exploratoire avec quatre territoires, quatre collectivités, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Quimper et Angers, avec l'idée de mobiliser de la donnée à la fois d'exposition aux canicules et de les croiser avec des vulnérabilités socio-économiques à l'échelle des quartiers.
Et donc à qui s'adresse cet outil Adapt Canicule ?
Alors cet outil, on l'a construit pour la base, pour les professionnels, pour leur donner des éléments de connaissance sur leur réalité locale. On partait peut-être d'un présupposé ou de sujets peut-être peu connus à l'époque, à savoir que lorsqu'on commençait à travailler sur les enjeux d'adaptation au changement climatique, et en particulier sur les canicules, on avait souvent des retours de professionnels qui nous disaient « Non, nous, sur nos quartiers, on n'a pas trop de soucis par rapport aux canicules parce qu'ils sont assez bien couverts en végétation. » Bref, on voyait parfois que le sujet n'était pas très bien identifié ou mal appréhendé. Et nous, de par notre connaissance des réalités des quartiers politiques de la ville, on sentait en tout cas que ce sujet méritait d'être creusé et surtout d'être validé d'un point de vue de données et plus scientifique.
Maximilien Steindorsson, pourquoi est-il aujourd'hui urgent de s'adapter à vivre dans des villes brûlantes ?
Souvent quand on parle de canicule, de vagues de chaleur, etc., et surtout d'impact sur les populations, on va avoir plutôt en tête soit que dans l'Ouest on est moins concerné, mais en fait certes aujourd'hui on est moins concerné, mais dans l'avenir on le sera d'autant plus, et en fait il faut plutôt regarder les territoires qu'on considère aujourd'hui comme étant particulièrement exposés, comme peut-être notre futur. Et donc c'est pour ça qu'il faut tout de suite, il n'est pas trop tard encore, de travailler à des stratégies d'adaptation des villes à l'enjeu de canicule. Je pense qu'il y a un certain nombre de villes qui ont déjà pris la mesure de cette problématique-là. Néanmoins, c'est ce que disait Frédéric, c'est que il y a qu'un aspect, on va dire, de la canicule qui est abordé, c'est-à-dire c'est l'aspect de l'aléa. Donc, c'est-à-dire on va chercher à freiner la chaleur, ce qui est une bonne chose. Mais néanmoins, on va moins prendre en compte l'aspect populationnel. Dans cette recherche d'adaptation.
Sur le front du climat, Frédéric, les villes et l'État sont-ils engagés de la même façon ?
Au niveau national, il y a des politiques publiques qui sont évidemment construites à cet effet. Au niveau local aussi, ça se matérialise par des plans climat air énergie. Donc oui, en tout cas, les stratégies nationales et au niveau local s'alignent. Et c'est pour ça qu'on a voulu, nous, profiter en fait, de ce travail pour venir y inscrire en fait, une approche populationnelle pour justement intégrer en fait, les inégalités qu'on percevait face à ces situations. Le fait d'habiter dans un quartier populaire, c'est à la fois habiter dans un environnement urbain qui va être assez dense, très urbanisé, dans lequel on va avoir des conditions de logement particulières. On va avoir aussi une forte concentration de population pauvre avec des caractéristiques socio-économiques et sanitaires très fragiles. Les conditions socio-économiques et sanitaires vont exacerber finalement l'exposition à laquelle elles sont face par rapport aux canicules. Et c'est vraiment sur l'angle inégalité sur lequel nous on a voulu jouer pour que lorsque les politiques publiques d'adaptation au changement climatique sont menées, elles intègrent en fait ces spécificités locales. Donc oui, c'est aligné. Par contre, nous, de notre sens, il faut les prioriser au regard en fait d'éléments de contexte ou sociaux, économiques et sanitaires. Du coup.
Qui sont aujourd'hui les premiers touchés par la canicule ? Qui sont les plus vulnérables aujourd'hui ?
Cette vulnérabilité, elle peut être physiologique, quoi. Une personne âgée, un enfant en bas âge, donc va avoir moins d'aptitude à résister aux fortes chaleurs, et d'autant plus quand on a ce qu'on appelle les nuits tropicales, c'est-à-dire que la température ne descend pas suffisamment la nuit pour que le corps puisse se reposer. Après, il peut y avoir des fragilités sociales, dans le sens où on intègre, par exemple, dans l'étude, le taux de pauvreté. Et on nous a déjà dit, mais quel rapport entre la pauvreté et la chaleur ? C'est vrai que du premier abord, on pourrait se dire, bon, bah, finalement, quel que soit le revenu, on a tous le même impact à la chaleur, sauf que effectivement, quand on est une personne qui est plus en précarité, on ne va pas avoir de véhicule, on ne va pas avoir de résidence secondaire, on ne va peut-être pas avoir les moyens de partir en week-end pour aller chercher de la fraîcheur soit à la mer, etc. Et donc, du coup, on va se retrouver coincé, entre guillemets, dans un espace de vie plus petit. On peut avoir aussi des familles monoparentales qui vont pouvoir plus de difficultés dans ces contextes-là. Et puis après, toi, tu l'as évoqué, Frédéric, les difficultés liées au logement. Non. Il se trouve que les quartiers politiques de la ville sont sur un critère qui est celui du revenu. Donc, inévitablement, quand on regarde le risque, on voit des vulnérabilités plus fortes dans ces quartiers-là, puisqu'elles elles y sont concentrées. Néanmoins, il y a aussi des poches de vulnérabilité dans d'autres espaces urbains qui étaient peut-être moins attendus, avec donc des concentrations peut-être moins fortes de populations âgées, de pauvreté, etc., mais à des plus petites échelles et qui échappent finalement à la géographie prioritaire. Donc nous, c'est bien l'intention, c'est de changer le scope et de se dire, en fait, on va pas regarder uniquement des cartes de chaleur, on va croiser à ces cartes de chaleur les endroits où on retrouve les populations qui vont être le plus fragilisées et celles qui ont plus besoin d'aide, d'accompagnement ou de solutions à proximité.
Dans votre étude, Maximilien, vous évoquez les lieux ressources, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ces lieux ressources ?
Si on prend l'exemple d'une personne qui est non motorisée, qui n'a pas forcément les moyens de partir lorsqu'il fait chaud, l'idée c'est de se dire à 300 mètres, donc qui correspond à 10 minutes à pied pour une personne à mobilité réduite, quels sont les types de ressources que je vais pouvoir trouver autour de chez moi, rapidement. Dans ces ressources, donc nous, on en a listé 4 grands types. On va avoir des lieux frais extérieurs, donc des espaces où, en soirée notamment, on peut trouver de la fraîcheur. On va avoir des lieux intérieurs qui sont très probablement climatisé, un centre commercial, un cinéma, etc. On va avoir des équipements publics où on peut avoir de l'information. Et puis, un dernier type de lieu, c'est les lieux de soins. Donc, ça va être tous les lieux de soins qui sont ouverts, entre guillemets, dans lesquels on peut aller un peu n'importe où, quand, donc pharmacie, centre de santé, hôpitaux, cliniques, je crois, qu'on a listé dedans.
L'été 2025 a été qualifié de révélateur d'une fracture sociale climatique en Europe, avec des pertes estimées à 43 milliards d'euros pour l'Union européenne. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe commence à regarder ses quartiers populaires comme un enjeu d'adaptation climatique à part entière aujourd'hui ?
J'ai pas vu de programme spécifique sur les approches sociales autour des enjeux climatiques. Je pense que c'est un sujet qui est encore très émergent en fait en France et en Europe. Ça commence à se développer en tout cas. Je peux peut-être juste aussi illustrer par rapport au territoire sur lequel on est. Nous, on travaille par exemple avec le Pacte des Solidarités, qui est une politique publique de lutte contre la pauvreté. Et là, dans les travaux qui sont développés, justement, c'est la dimension adaptation qui a été retenue pour travailler en 2026-2027. Donc en tout cas, on voit que le sujet commence à être intégré. Donc je pense qu'on est vraiment encore au démarrage de quelque chose, quoi, du coup.
En Europe, seulement 19% des ménages ont recours à la climatisation, contre 90% aux États-Unis. La tentation du tout clim grandit, mais est-ce que ce n'est pas aussi un risque d'augmenter les inégalités ?
C'est pour ça que l'action publique, elle est nécessaire, quoi. Parce qu'évidemment, si on attend que les individus mettent en œuvre des actions pour s'adapter chacun de son côté, on va mettre de côté ceux qui ne sont déjà pas propriétaires de leur logement, donc qui n'ont pas la main finalement sur l'isolation thermique et notamment la protection l'été. Et puis d'autres qui n'ont pour beaucoup pas les moyens aussi de se payer tous les dispositifs qui peuvent aider dans ces situations de très forte chaleur. Donc c'est aux politiques publiques de travailler avec les bailleurs sociaux, par exemple, quand il y a des rénovations énergétiques, à bien prendre en compte les performances thermiques face au froid, mais aussi face au chaud. Quand on voit des grandes barres ou des grandes tours qui sont rénovées thermiquement, c'est tout propre, c'est tout beau, mais on va avoir des grandes façades qui vont être exposées plein sud et sur lesquelles, au final, on aurait peut-être juste à créer des ombrières, en fait, pour casser les rayons du soleil et qui viennent pas atterrir sur la façade et créer une surchauffe qui se répercute directement à l'intérieur du logement. Donc ça, c'est aussi parce que c'est pas dans notre culture localement, quand on commence tout juste à connaître des épisodes comme là en 2025, vous l'avez dit, qui sont intenses et qui marquent. Donc maintenant, je pense que ça va servir aussi de déclencheur pour vraiment mieux retravailler ces projets-là. Et puis en tout cas, pour moi, l'essentiel, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de travailler à l'enjeu principal avec une multitude de compétences, que ce soit de l'action sociale, de la santé, des transitions, des espaces verts, du bâtiment, etc. etc.
Merci Maximilien Steindorsen et Frédéric Fénard. Je rappelle que vous êtes respectivement chargé de mission et chargé de transition pour l'association Réseauville.
Vous venez d'écouter Déjà Demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages produite par la CorLab et la FRAP avec le soutien de la Fondation de France. Cette série s'inscrit dans le cadre du projet Onde Durable.
Un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir des alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, groupe Caisse des Dépôts.
Un entretien réalisé par Mathieu Bois de Radio. Le pédalo, c'est bientôt fini, mais avant, on vous propose d'écouter un débat organisé par Marion Bastit dans le cadre de ses ateliers radio et de son émission Ouvrez les micros. Elle propose à des élèves de 5e du collège Saint-Jean-de-la-Barre de débattre sur l'importance du sport pour combattre les discriminations.
Bonjour, bienvenue, Ouvrez les micros. Nous voici à Radio Campus Angers. Je m'appelle Ginane et voici mes chers collègues qui seront des débatteurs. Léa, Quentin, Maël et Blaise. Bonjour. Messieurs, mesdames, pensez-vous que le sport peut-il mettre des discriminations hors jeu ? Je vais vous laisser avec mes chers collègues dans un débat très pertinent. Vas-y, Quentin.
Moi, je pense que oui, parce que même s'il existe des stéréotypés qui disent que les hommes seraient plus aptes que les femmes à faire du sport, c'est pas vrai, quoi. Enfin, il existe plein de choses sur le sport, et en ce moment, par exemple, il y a les Jeux paralympiques qui ont été instaurés en 1948, et c'est une grande amélioration.
Qu'en penses-tu, Blaise?
J'en pense que les Jeux paralympiques, au final, ils mettent ceux qui ont un handicap de côté. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment améliorer quelque chose pour eux? Ils les mettent de côté, ils les mettent pas comme c'était pareil. Donc en somme, c'est un peu comme s'ils les mettaient, comme s'ils n'étaient pas pareils avec les autres joueurs. Et puis, par rapport aux femmes, j'ai envie de dire, il reste quand même encore plein de stéréotypes. Donc du coup, est-ce que franchement, cette discrimination, elle est partie ou pas?
Je te rejoins sur le terme des Jeux paralympiques. En soi, ouais, c'est quand même une grande amélioration qu'on ait fait des Jeux olympiques pour les paralympiques, parce qu'avant, avant 1948, je crois, ça n'existait pas. Et franchement, je trouve que c'est quand même un grand pas pour l'humanité, parce qu'avant, ils étaient mis de côté, parce qu'en soi, ils ne pouvaient pas montrer leur talent. Et en soi, ça aurait été dommage, parce qu'on les mettait de côté. Alors que maintenant, on a réussi à faire un petit pas. Ok, ils ne sont pas en même temps que les JO, mais ils ont aussi leur moment de gloire. Donc ça, c'est quand même important de le dire.
Et je voudrais signaler que ce serait pas égal qu'on mette des personnes avec un handicap avec des personnes sans handicap, parce que les personnes avec un handicap devraient avoir leur jeu à eux, et du coup, c'est ce qui s'est passé. Parce que s'ils n'avaient pas leur jeu à eux, ce serait toujours les mêmes qui gagneraient, et ce serait pas du tout égal. Alors que là, ils sont avec des gens qui ont des problèmes aussi, et ça égalise un peu.
Ah, mais on les met quand même de côté, du coup. C'est un peu comme s'ils étaient... Certes, oui, mais ils sont mis à côté. Ils ne sont pas considérés comme les autres.
Qu'en penses-tu, Maëlle?
En soi, je suis d'accord avec Blaise. Ils sont mis de côté. Mais on peut pas dire non plus qu'ils sont exclus. Vu que, oui, par rapport à ce qu'a dit Quentin, on peut pas les mettre vraiment ensemble, vu que du coup, comme a dit Quentin, ce serait toujours les mêmes qui gagneraient, ça serait pas équitable, mais ils sont quand même exclus en soi.
Après, c'est normal de leur faire leur jeu à eux. C'est pas, ils ont quand même des Jeux Olympiques, c'est juste pas les mêmes. Et après, si on parle des discriminations, je pense aussi que ça peut enlever des discriminations, parce que par exemple la participation des femmes, justement, je reviens au sujet, elle avait été autorisée qu'en 1900, alors qu'avant, c'était pas autorisé, quoi.
Ok, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres arguments ou pas?
Oui. Par exemple, il existe encore beaucoup de clichés. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de myope qui accède à un poste pour devenir pilote de Formule 1?
Ah ouais, mais non, mais là, c'est pas du tout la même chose.
Ou quelqu'un de tout petit qui, lui, va devenir basketballeur professionnel.
Et oui. Non, j'en connais pas. Mais tout le monde a le droit d'essayer au moins. D'avoir sa chance d'essayer.
Certes, d'essayer, mais regardez. Au foot, par exemple. Lorsque quelqu'un rate un but, tout le monde se jette sur lui. C'est de sa faute après. Ça, est-ce que c'est pas de la discrimination? Et après, imaginons qu'il n'ait qu'une seule petite chose. Cette personne, elle est malvoyante, mais elle a des lentilles. Ou alors, elle a un problème au cerveau, elle est autiste. Ou voilà. À chaque fois, les personnes, elles vont rabâcher dessus. Elles vont dire, ah, ok, c'est de ta faute. Ah, t'as un handicap. Ah, mais c'est normal, t'as les yeux qui voient pas bien, t'entends pas quand on te parle, t'es autiste aussi, tout ça. Ou des clichés racistes.
Oui, il y en aura toujours. Et ça, le monde, c'est pas forcément une très bonne chose. C'est même pas du tout bien. Mais c'est vrai que... Comment dire? Je reprends ton truc de foot. Si tu rates un but, en soi, ce n'est pas grave parce que t'as essayé. Ceux qui marquent, ils ont essayé. Si tu rates, c'est pas grave. Faut te dire que t'as essayé,
t'as joué, t'as fait de ton mieux, tout est bien.
Dites ça aux footballeurs.
Oui, ok, c'est assez compliqué, mais eux, après, si c'est leur métier, faut essayer quand même un peu.
Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu dis, justement, s'il a un handicap, il rate pas son but, il va être exclu et tout. Et tout à l'heure, tu disais, oui, ben, ils sont exclus dans les Jeux paralympiques. Ben justement, c'est pour ça. C'est pour pas subir d'autres discriminations qu'on a créé les Jeux paralympiques. Pour pas qu'on puisse dire, oui, lui, il l'a pas marqué, et c'est l'autre qui l'a marqué parce que lui, il est handicapé et pas l'autre. Alors que là, si on crée des Jeux paralympiques et que c'est quelqu'un d'handicapé qui loupe le but, eh ben on peut pas dire bah fallait faire la passe à lui parce que lui il est pas handicapé, parce qu'ils sont tous handicapés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des jeux paralympiques et tout ça.
Merci de nous avoir écoutés. J'espère que le débat vous aura plu et à bientôt pour de nouvelles émissions.
Un débat organisé par notre collègue Marion Bastide. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Maëlle à la technique. La programmation continue sur le 103 FM, alors restez bien avec nous. Et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
À retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.